À Cannes tout de suite, la dernière partie de la Grande Table. Caroline Brouet, c'est à vous.
Merci Antoine, on vous retrouve demain. La Grande Table a effectivement installé ses micros à Cannes au Festival International du Film jusqu'à jeudi midi. Et pour cette dernière partie de l'émission, nous sommes en compagnie du réalisateur d'origine tchadienne, Mahamat Saleh Haroun. Bonjour.
Bonjour.
Mahamat Saleh Haroun, on vous doit Bye Bye Africa, on vous doit Abouna, notre père. Vous étiez venu à cette même table nous en parler. Darat, Saison sèche, Un homme qui crie ou encore Gris-gris. Vous êtes à nouveau sur la croisette ici à Cannes où votre film a été montré en séance spéciale dans la sélection officielle pour Hissène Abré, une tragédie tchadienne qui est votre premier documentaire. Vous n'imaginiez pas une autre forme, vous n'imaginiez pas une fiction pour traiter de ce sujet qui est le vôtre aujourd'hui ?
Non, impossible de faire une fiction sur quelque chose d'impensable en réalité. Ce qui s'est passé, ce que Clément Abaifouta et les autres ont vécu dans les prisons de Hissène Abré, est au sens philosophique impensable, donc irreprésentable. Je ne peux pas le recréer. En fait, c'est vraiment éthiquement pas juste, moralement condamnable. Donc la seule façon, c'était d'être auprès des victimes et de recueillir en fait la parole. Et c'est ce que j'ai essayé de faire.
En particulier avec cette parole, vous l'avez citée, de Clément Abaifouta, qui est avec nous aujourd'hui et que je salue. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le fil conducteur du film, le personnage principal, mais vous êtes avant cela une figure emblématique de ceux qui se sont battus pour que Hissène Abré réponde de ses actes devant la justice. Vous présidez l'association des victimes des crimes du régime d'Hissène Abré. Hissène Abré, président du Tchad de 1982 à 1990, et qui a été arrêté le 30 juin 2013, arrêté puis inculpé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de torture. Son procès a eu lieu cette année, l'année dernière et cette année, en février, il était encore question de son procès. Il s'est terminé il y a juste quelques semaines. Le verdict aura lieu fin mai. Est-ce que c'était pour vous, Mahamat Saleh Haroun, le bon moment pour faire un film sur les forfaits d'Hissène Abré ?
Oui, à partir du moment où Hissène Abré a été arrêté, Je me suis dit que c'était le bon moment pour mettre en perspective un peu la parole des victimes, parce que j'ai commencé à travailler sur ce projet depuis plusieurs années, avec notamment l'avocate des victimes, Jacqueline Moudena. Et à cette époque-là, je ne voulais pas avoir une parole de complainte. Je voulais que la parole des victimes ait une perspective, qu'on l'inscrive en fait dans quelque chose de en construction comme ça. Et l'arrestation d'Hissène Abré me permettait de structurer cette parole-là vers quelque chose, de la mettre en mouvement en fait. À partir de cette date, donc le 30 juin 2013, Hissène Abré arrêté et inculpé, comme vous l'avez dit, je me suis dit voilà la porte en fait qui me donne l'entrée dans cette histoire et comment la structurer.
Clément Abaifouta, ce procès d'Hissène Abré, ça a été l'aboutissement d'une très longue bataille judiciaire. Vous pouvez nous en raconter quelques moments forts pour vous et pour les autres rescapés.
Merci. Le premier moment fort que j'ai eu, c'était en 2005, la demande d'extradition d'Hissène Abré vers la Belgique. C'était le moment fort et en ce temps-là, 15 ans après, je devais voir Hissène Abré pour la première fois. J'ai pleuré comme un enfant. Et puis, la bataille judiciaire s'est enclenchée. Il fallait tourner. Les gens nous ont tourné en bourrique jusqu'à ce que Hissène Abré de nouveau soit arrêté. Le fait que j'ai eu Hissène Abré à quelques 2 mètres de moi, c'était pour moi, je me dis, nous sommes arrivés. Parce que personne ne pouvait imaginer que Hissène Abré, qui était comme un dieu, n'est-ce pas, au Tchad, le lion de l'UNIR, personne ne pouvait imaginer qu'un jour Hissène Abré va être rattrapé par l'histoire par le droit.
Lyon de l'Unir, donc l'Unir, c'était le parti unique de Hissène Habré, l'Union nationale pour l'indépendance et la révolution.
Voilà, donc ce sont ces moments forts là qui m'ont marqué et qui continuent à me marquer, sinon me galvaniser pour que je puisse continuer cette lutte que nous avons engagée.
Et puis c'est un procès historique puisque Mohamed Saleh Haroun et Clément Abaifuta, c'est le premier dictateur africain à être jugé par un tribunal en Afrique. Il n'est pas devant la cour de La Haye. Quelle importance cela revêt pour vous, Mohamed Saleh Haroun?
Pour moi, cela ne revêt pas un caractère particulier parce que il faut rappeler quand même des choses incroyables, hein, parce que à un moment, quand la Belgique avait demandé l'extradition d'Hissène Habré, il y a eu tout un pan de la société africaine qui disait qu'il ne fallait pas que un des nôtres, un fils de l'Afrique, soit jugé par des blancs, comme si en fait les crimes africains ne pouvait pas être compris par les blancs. Et ça, je n'adhère pas à cette façon de penser qui est complètement injuste, qui est fausse. Un crime est un crime et normalement tout homme peut juger. Voilà, on est des hommes, on appartient à la même communauté. Donc je ne dirais pas que c'est une première, mais on peut, enfin c'est une première, mais on peut se dire que c'est formidable que ça se passe en Afrique parce que c'est dans la proximité de là où les choses ont eu lieu et la résonance est beaucoup plus importante, d'autant plus que le procès a été retransmis à la télévision, que beaucoup d'Africains l'ont vu et au Tchad ça a été très suivi et ça a réveillé les consciences. On se dit qu'aujourd'hui c'est possible que cela pourrait arriver à d'autres s'il leur arrivait dans la tête de commettre les mêmes crimes. Et faire peser comme ça, en fait, une épée de Damoclès sur tous ces dirigeants africains qui, par moment, en fait, considèrent un peu les pays comme leur propriété privée, c'est une très bonne chose, c'est une belle avancée.
Clément Abaifuta.
Ouais, vous savez, à un certain moment, lorsque cela se disait, moi j'étais un peu choqué, pour dire que le droit n'a pas de couleur. C'est des gens qui ont été, n'est-ce pas, traumatisés, martyrisés, et qui devaient répondre de leur acte devant un tribunal, que ce soit un blanc, que ce soit un noir, le fait est là. Aussi, il faut dire que nous avons commencé en Afrique. Les premières plaintes ont été déposées en 2000 au Sénégal. Mais c'est Abdoulaye Ouad qui a tourné la chose tellement en bourrique que nous, étant un peu dessus, nous avons dit « bon, mais il faudrait trouver, n'est-ce pas, une autre porte ». Et nous sommes allés en Belgique. Sinon, on a commencé bel et bien en Afrique. Moi, je me dis aussi que c'est une manière, c'est un fort cri, hein, un cri de douleur qui attend qu'une oreille attentive puisse capter ce cri, parce que ce qui se passe en Afrique, vous voyez ce qui se passe un peu dans les deux Congo, au Burundi, un peu ailleurs, nous nous disons que ce film qui constitue pour nous un tremplin va servir, n'est-ce pas, de pédagogie, que fût-il un président de la République qui ne se lève pas un de ces quatre matins et qui traite des gens comme c'était des dans une bergerie, qui tue comme il veut et qui fait cette... Non, mais moi je crois qu'il faudrait que les gens se disent désormais, je vais être rattrapé. Donc, il faut que les gens fassent attention. C'est un peu ça, en fait, je me dis, ce film, pour moi, c'est une tribune. Et c'est un tremplin pour que les gens qui ne savent même pas où est situé le Tchad, puisse savoir exactement les faits, les choses que nous avons vécues. Et c'est des choses réellement vécues et des choses qui se sont passées.
Mohamed Saleh Haroun parlait de cette parole des victimes qui constitue la matière première de ce film sur Hissène Habré. La vôtre en particulier, Clément Abaifuta, les faits dont vous parlez, les faits c'est votre vie, c'est... Vous avez été une des victimes, une des 40 000 victimes d'Hissène Habré. Vous avez passé 4 ans dans les geôles de la police politique et ils vous ont transformé en croque-mort. Vous avez été obligé d'enterrer les détenus qui mouraient en prison. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment on met des mots derrière cela, devant une caméra?
Les mots, c'est que nous avons fait la salle besoin, contraints de faire cette salle besoin, mais au-delà, c'est quand même un message pour dire, vous avez été obligés de vivre dans un labyrinthe, mais le soleil s'est levé, les rayons de soleil vous ont extrait de ce labyrinthe. Et maintenant, il faudrait regarder dans l'avenir, il faut regarder ce soleil dans un espoir. Parce que le procès, c'est un fait. Mais après le procès, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un peu ça la démarche. Et je me dis, et ce film nous sert, n'est-ce pas, de voir dans l'avenir. Parce que tout le monde passe, mais le Tchad existe. Qu'est-ce qu'on fait après ce procès? Ça, c'est des grandes questions. Et je me dis que c'est la nouvelle démarche. Je disais à Aaron ce matin, en même temps, il fait parler les victimes pour sensibiliser, pour informer, mais en même temps, il nous ouvre une porte pour que nous puissions nous poser des questions pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait du Tchad après le procès?
Mamat et Aaron.
Oui, c'est un peu cela, la démarche, même si je ne mettais pas un objectif particulier, parce que je me méfie en fait des films qui veulent remplir une mission. Dans ce cas-là, après, on peut toujours en tirer le bilan, et une œuvre ne peut pas être soumise à ce jugement-là dans le temps. Oui, quelque part, 12 millions d'habitants qui ont un seul psychiatre, je fais ce travail-là aussi pour que cette parole, parce que je l'inscris dans l'éternité, parce que je lui donne le temps, elle a une résonance, une écoute, et cela, comme dit Clément souvent, c'est un petit pansement sur la blessure, qui n'est pas cicatrisé, mais c'est un petit pansement, et c'est en toute fraternité humaine que j'ai fait cela pour que, en fait, on continue d'aller vers la lumière, et ne pas être prisonnier de ce piège, parce que le grand problème, le gros problème et le plus grand crime, c'est que les victimes, parce qu'estropiées, parce que handicapées par les tortures subies dans les prisons, se rappellent chaque minute de leur vie ce qui leur est arrivé. Et il faut qu'elles sortent en fait du piège, parce qu'elles sont en permanence dans ce souvenir-là. Mais comment aller de l'avant, c'est ça que j'essayais par ce film modeste en fait d'apporter. Et il m'a semblé, après la projection qui a eu lieu au Tchad le 6 mai dernier au cinéma Le Normandie, que cela leur a fait beaucoup de bien de voir leur film. Et un film, c'est plus que la télé, c'est que ça a un côté, parce que c'est un regard, et du coup ils avaient l'impression que les gens les ont écoutés. Et ça leur a fait du bien. Et je me souviens d'une des victimes qui, après un entretien, m'a dit « merci beaucoup », qui n'arrêtait pas de me remercier. Et j'ai dit « mais pourquoi vous me remerciez ?» Il m'a dit « mais depuis que je suis sorti des prisons de Hissène Habré, personne ne m'a posé ces questions-là. Je les attendais que quelqu'un me les pose, mais personne, mes frères, la famille n'a jamais posé ces questions. » Si je suis frère de cet homme-là, c'était mon devoir de lui poser cette question. Voilà ce que j'ai fait, ouais. Voilà, ouais, ouais, ouais.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Nous sommes à Cannes en compagnie de Mahamat Saleh Haroun pour son nouveau film, un documentaire, Hissène Habré, une tragédie tchadienne, et avec nous également Clément Abaïfouta, qui a participé activement à ce film, qui a collaboré au dispositif de ce film et qui est le président de l'association des victimes des crimes du régime d'Hissène Habré. Quand je dis que vous avez collaboré, Clément Abaïfouta, le mot est presque faible, parce qu'en fait vous êtes présent tout le temps dans ce film. Mahamat Saleh Haroun vous filme, vous posez questions auxquelles vous répondez, ces fameuses questions qu'il se devait de poser. Et vous-même, vous allez aussi avec lui à la rencontre des autres victimes qui racontent leur histoire. Vous avez fait ensemble ce choix de vous focaliser sur cette parole des victimes. On ne voit Mahamat Saleh Haroun, ni Hissène Habré, ni le procès en cours, sauf à un tout petit moment, au début du procès, quand Hissène Habré a fait scandale en contestant la légitimité de la cour. Mais vraiment, tous les deux, vous vous êtes focalisés, vous vous êtes aidés l'un l'autre. Comment cela s'est-il passé, Mahamat Saleh Haroun?
Oui, très vite en réalité, j'ai rencontré Clément qui devait me connaître et quand je l'ai appelé, il me connaissait et moi je le connaissais, mais on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer et tout de suite il m'a dit bonjour mon frère et on est tout de suite dans une espèce de fraternité comme ça. Je lui ai expliqué le projet. Et il a accepté et le dispositif très vite. Je me suis dit, c'est comment partager cette mémoire-là à un moment donné, passer le relais à Clément et que lui essaye de réveiller cette mémoire parce qu'il revoit des victimes avec lesquelles il était en prison. Ils ont partagé ces moments-là et c'est aussi quelque chose que je ne pouvais pas. Je n'ai pas accès à cette mémoire-là. Donc c'est usurper en fait une place et je ne voulais pas mener un entretien comme un journaliste et j'ai préféré mettre un peu cette espèce d'alter ego. En tout cas, je l'ai mis un peu en avant pour qu'il me rapporte de son point de vue un peu ce qui s'est passé. C'est une narration à deux voix un peu, quoi. Voilà.
Il faut dire qu'il y a deux choses qui, en fait, m'ont galvanisé. D'abord, Haroun est un Tchadien. Il connaît l'histoire du Tchad, même s'il n'a pas vécu entièrement cette histoire. Ça, c'est de un. De deux, je me dis, c'est l'occasion ou jamais un frère qui se donne la latitude de nous accompagner, de nous faire parler, de mettre au grand jour ce que les gens ont eu tendance de cacher. Alors, ces deux choses m'ont tellement galvanisé, j'ai dit non, je peux pas hésiter et allons-y à fond la caisse.
Je vous posais la question des mots tout à l'heure, devant la caméra, pour arriver à, malgré tout, à parler. J'ai lu que le procès lui-même avait libéré déjà une parole, que les victimes arrivaient à parler. Est-ce que vous vous êtes demandé, Mahamat Saleh Haroun, malgré tout, comment filmer ensuite les témoignages? Certains des témoignages sont insoutenables, tout simplement parce que les horreurs traversées par vous et par vos camarades frères, Clément Abaïfouta, ont été impensable. On revient
absolument,
au début.
Oui.
Est-ce que vous vous êtes demandé ensuite, une fois que vous êtes dit je vais me concentrer sur ces victimes et sur leurs paroles, est-ce que vous vous êtes demandé où mettre la caméra, comment la placer, jusqu'où aller?
Absolument. Cette question est fondamentale. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est la grandeur en fait du documentaire par rapport à la fiction, qu'il y a une question morale permanente sur la place de la caméra, sur le respect des personnes qu'on filme, puisque c'est leur réalité qu'ils nous offrent, leur propre intimité. Ils ne recréent pas quelque chose, ils délivrent tout simplement un pan de leur mémoire. Et il fallait respecter cela. Et cette question était omniprésente, oui, la place de la caméra, comment être juste, jusqu'à quel point prendre la parole, d'autant plus que la parole de toutes les victimes n'était pas la même parce que il y avait des victimes qui avaient perdu en fait un peu la raison. C'est des gens qui, comment filmer tout cela, c'était des questions assez assez graves et il a fallu jongler, négocier pour inventer la place, la bonne place, quoi. Et c'est pour ça que par moments j'ai glissé Clément parce qu'il me semblait qu'il me permettait de trouver une certaine justesse dans pour recueillir en fait la parole des victimes.
Clément Abaïfouta, pourquoi ils étaient arrêtés, tous ces gens? Pourquoi avez-vous été arrêté? Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient?
C'est toujours la question qui me traumatise, hein. J'aurais aimé que Hissène Habré puisse me donner la réponse. Et puisqu'il il se plonge dans un mutisme insolent, je n'ai pas la réponse. Je me dis, mais la réponse devrait être le verdict pour moi.
Qu'attendez-vous de ce verdict? Il risque la prison à vie, hein?
Ben, c'est... Puisque nous ne pouvons pas demander la peine capitale, il n'y a que la perpétuité. Eu égard, n'est-ce pas, à tout ce que nous avons vécu, tout ce que les Tchadiens ont vécu, ce que nous-mêmes avons vécu, moi je crois que c'était la peine qu'il fallait.
Donc vous aimeriez que cette peine soit prononcée fin mai? On attend le verdict le 30
absolument,
mai.
Absolument, moi je...
Qu'est-ce qui se passe, Clément Abaïfouta, si la peine n'est pas celle que vous souhaitez?
Ben, ça m'aura un peu bousculé, hein. Ça m'aura bousculé. Je me dis, les faits, les preuves sont tellement irréfutables que on ne peut pas douter un seul instant qu'il ne soit pas condamné à perpétuité.
Mahamat Saleh Haroun.
Oui, écoutez, il faudrait s'attendre à quelque chose d'exemplaire, tout simplement, comme je le disais tout à l'heure. C'est historique et qu'il faut être à la hauteur de cet événement historique. Et il revient au juge maintenant de rendre le droit, de dire le droit. Voilà, mais quand on voit réellement ce que ces victimes ont traversé, ces gens qui reviennent de l'enfer, quelque part, moi j'ai fait ce film-là aussi parce qu'il y a, comme pour le nazisme, des gens en Afrique, au Sénégal, au Tchad, un peu partout, qui pensent que c'est un complot contre Hissène Habré et que ces choses-là n'ont pas existé. Et c'est aussi faire ce film pour annihiler toute velléité, en fait, de déni. Et ça, c'est le plus insupportable, en réalité. Ces personnes intellectuelles, parfois, ou qui se veulent telles et qui estiment que c'est un complot, qu'on a entendu les mêmes choses pendant la tragédie rwandaise, hein, le génocide au Rwanda, des gens qui estimaient que la responsabilité incombait plus à la France, des gens, toujours cette façon de une logique de fuite en avant, et le film permet aussi de remettre un peu les choses à leur place. Et on espère que les juges feront leur travail en toute équité. Et voilà, il faut qu'ils soient exemplaires. On ne demande rien, je n'exige vraiment rien. C'est en leur âme et conscience, normalement, qu'ils décident. Donc on verra bien.
Restez avec nous tous les deux, Clément Abaïfouta et Mahamat Saleh Haroun, si vous le voulez bien, pour écouter ce qui va suivre. Raphaël Bourgois, de La Grande Table, est allé à la rencontre de l'écrivain Jonathan Little, qui lui aussi signe son premier documentaire, sauf que lui c'est son premier film, tout court. Et son film porte sur la question de la réinsertion en Ouganda d'anciens enfants soldats. Il a aussi été présenté en séance spéciale ici à Cannes. Le film suit principalement 4 adolescents, parmi les quelques 60 000 qui, en 25 ans, ont été enlevés par une secte, l'armée de résistance du Seigneur, dans les années 90. Aujourd'hui, ces adolescents ont grandi, ils tentent de se reconstruire. Ils reviennent avec le réalisateur sur les lieux qui ont marqué leur enfance volée. Écoutez donc Jonathan Little parler de Wrong Elements.
Ce qui m'intéressait ici, c'était la question des bourreaux involontaires, qui n'est pas du tout uniquement limitée à cette situation. Mais j'ai choisi cela parce que c'est un cas particulier extrêmement intéressant. Spécifiquement, en termes de mouvements rebelles africains qui utilisent des enfants soldats, c'est assez commun, comme vous le savez, au Congo, au Sierra Leone et ailleurs. Mais l'ALRS se distingue notamment parce qu'à la différence des autres, ils n'utilisent pas de drogue, pas d'alcool. C'est une secte très puritaine qui a toujours carburé à l'idéologie politique et religieuse. Et donc les enfants sont formatés par un processus idéologique et pas juste camés, comme ils peuvent l'être dans l'est du Congo, où ils tuent dans des brouillards de cocaïne et d'alcool. Ce qui est évidemment beaucoup moins intéressant après pour discuter avec eux, parce qu'ils se souviennent pas de grand chose. Ici, c'est des gens qui ont grandi, qui ont vécu des années dans l'arrêt, c'est devenu leur vie, et du coup, ils ont une capacité d'en parler de manière extrêmement lucide.
Oui, le dispositif les met, les ramène sur les lieux. On pense évidemment à Rétipan, à Oppenheimer, voilà, qui sont des réalisateurs qui ont pu travailler comme ça. Ici, voilà, vous faites émerger la parole qu'on sent spontané et parfois rejoué, c'est-à-dire que c'est une autre ambiguïté de savoir si ils parlent comme en tant que ce qu'ils étaient ou en tant que ce qu'ils sont maintenant.
Le dispositif, c'est quand même c'est Claude Lanzmann qui l'a inventé, avec Shoah, évidemment. Et est-ce que Lanzmann a compris, c'était complètement empirique, lui, quand il l'a fait, mais que ce type de remise en situation permet de libérer des paroles qui, autrement, ne peuvent pas s'exprimer, ou en tout cas pas de la même manière. Et ensuite, effectivement, comme vous l'avez dit, Rittipan, Oppenheimer et d'autres ont repris ce principe, chacun avec sa variante, sa version. Donc voilà, oui, je me suis inspiré de cette tradition et j'ai pu constater à mon tour que ça marche remarquablement bien. C'est-à-dire que quand on a amené les trois personnages, Jeffrey, Nighty et Mike, à Djebelin, ce camp de la LRA où ils ont grandi, ils étaient fous pendant des jours avant à l'idée d'y aller, dans la voiture en y allant. Une fois arrivés sur place, ils étaient comme des petits chiots. C'est l'endroit où ils ont, malgré toutes les choses absolument horribles qui sont passées là-bas et qui racontent, c'est quand même l'endroit où ils ont passé leur adolescence, une partie de leur enfance. Et du coup, il y a toutes ces dynamiques-là de l'enfance, de l'adolescence, de l'horreur, mais du fun aussi qui ressortent tout d'un coup, quoi.
Quant à un réalisateur occidental, j'allais dire, américain, franco-américain, comme vous l'êtes, va en Afrique, il y a aussi particulièrement cette question du regard, c'est souvent un regard condescendant qui est porté sur ce continent, sur cette situation, ce qu'on ne ressent pas dans votre film, je dois le dire. Comment est-ce que vous avez travaillé, eu ce souci justement de ne pas arriver avec un regard en surplomb?
Ça, c'est une question qui m'a énormément préoccupé pendant toute la réflexion, le développement du film. J'ai regardé énormément de films faits sur l'Afrique. Je veux dire que les fictions, j'en ai pas trouvé une seule qui n'a pas justement ce problème que vous décrivez. Et donc c'était un problème que je voulais vraiment vraiment éviter. Un modèle, évidemment, c'était Jean Rouch, qui lui a un regard absolument extraordinaire et admirable. Donc j'ai regardé beaucoup de films de Rouch. Et donc la première décision, c'était, parce que maintenant il y a toute une tendance dans les films sur l'Afrique d'essayer de, pour faire justement plus authentique, d'évacuer le blanc du film. Et donc tous les derniers films depuis les dernières années, justement, on essaie de se passer du blanc, qui est le truchement. On fait des films que sur les noirs, avec les noirs, pour faire plus authentique. En fait, ça marche pas. Donc, moi, je me suis dit, il fallait assumer la position du blanc, la place du blanc, le regard du blanc. Et donc, cette position-là est intégrée dans le dispositif. D'où ma voix, d'où la musique baroque occidentale, qu'on a d'ailleurs mis, vous avez peut-être remarqué, sur l'arrière du film au mix, parce que c'est vraiment c'est le bagage qu'on porte. Nous qui faisons le film ou qui le regardons ici. Et une fois ce regard-là ou cette position-là assumée, on était assez, je dirais, d'égal à égal avec Jeffrey et les autres.
Du point de vue de l'esthétique, Jonathan Little, c'est un film qui est beau. C'est un film qui est tourné en 4 tiers, pas en 16/9. Pourquoi ce choix du 4 tiers et comment est-ce que vous avez traité cette question de l'esthétique, hein, qui est souvent reprochée notamment aux photographes de guerre ou aux documentaristes qui traitent d'une réalité particulièrement atroce comme celle-ci?
On peut me le reprocher à moi aussi, hein, et sans doute il y en a qui ne se priveront pas de le faire, mais de toute façon je pense que l'illusion du pas de forme, ça n'existe pas. Je veux dire, un reportage télé, aussi basique soit-il, a une forme. C'est une forme nulle, mais c'est une forme. Donc quitte à donner une forme à un travail, autant, à mon avis, que ce soit une belle forme, une forme travaillée. Vous avez parlé de l'image, on a aussi énormément travaillé le son. Il y a eu un vrai travail de fond sur les sonorités africaines, sur les voix, sur les bruits de fond, sur les insectes. Et ensuite au montage et au mix. Donc oui, et puis moi, de toute façon, la forme me préoccupe toujours. Je ne conçois pas de fond sans forme. Et quant aux 4 tiers, évidemment, moi, ce que je voulais éviter, c'était le côté l'Afrique cliché, l'Afrique somptueuse, l'Afrique colorée, ce que j'appelle l'Afrique National Geographic. Donc évidemment, faire le film en scope, pour moi, ça aurait été impensable. Le 4 tiers, c'était vraiment bien parce que ça reproduit c'est un cadre très fermé, ça reproduit un sentiment d'étouffement, de fermeture, on est très resserré sur les personnages, par exemple sur les gros plans, mais aussi dans la jungle, quand on avance dans la jungle, on ne voit pas sur le côté, on est enfermé, ou dans les hautes herbes aussi, c'est pareil. La vision est très très frontale. Et donc le 4 tiers permettait de donner tout ce sentiment à la fois de resserrement, d'enfermement, de verticalité. Dans les paysages, ça permet des compositions dans des formes très classiques de tableaux. Donc moi je trouve que c'est un cadre absolument magnifique.
Il y a un personnage qui crève l'écran, hein, c'est Geoffrey, l'un des trois personnages, et il a deux phrases clés qui permettraient de boucler cet entretien, Jonathan Little, sur ce projet qui est le vôtre avec Wrong Elements. D'abord, il dit, on est amnistié par le gouvernement, mais on n'est pas forcément pardonné par la population. Et ensuite, il termine le film, enfin vous terminez le film plutôt sur cette phrase, ce qui est fait, on ne peut que pardonner et recommencer à vivre. Enfin, c'est pas tout à fait la fin, mais à peu près. Cette idée de la rédemption, finalement, c'est aussi ce qui fait tenir le film.
Je n'aime pas le mot rédemption, et je pense pas que ce soit le mot juste. La culture Acholi, comme beaucoup de cultures de cette région, est une vraie culture de ce qu'on appelle la justice rétributive plutôt que la justice punitive. C'est-à-dire qu'eux conçoivent la justice en termes de réparation pour le dommage qui a été fait. Donc, par exemple, s'il y a un meurtre, tout simplement, on doit demander pardon en donnant des vaches, des biens matériaux pour remplacer la perte pour la famille qui a perdu quelqu'un. Et donc le pardon est une notion absolument vitale dans cette culture. Et je crois que c'est sur ce niveau-là qu'eux, ils fonctionnent. Jeffrey tenait absolument à aller dans ce village et s'est servi de nous pour être en position de pouvoir le faire. Pour aller demander pardon à cette femme qui a perdu ses fils et qui, en fait, est une relation de famille de sa mère assez lointaine. Donc, c'est pour ça que c'est spécifiquement elle à qui lui est demandé pardon. Et ça, c'était absolument vital pour lui, pour pouvoir continuer à vivre, de passer par ce processus. Mais ça, ce sont des choses qui sont vraiment très profondément ancrées dans leur culture et assez naturelles.
Merci, Jonathan Little.
Je vous en prie.
Jonathan Little, au micro donc de Raphaël Bourgois, Clément Abaïfouta, le pardon.
Le pardon. Est une réalité. On ne peut pas se dérober du fait que le pardon doit être fait et réalisé, même si quelque part on croit dire que c'est difficile. Moi, je me dis tout ce que nous avons vécu, toute cette procédure, c'est une page que nous avons écrite, une page de l'histoire. Mais après, comme le dirait quelqu'un, après avoir écrit cette page, il faut la tourner. Donc, s'asseoir, accepter l'inacceptable, parce que comme disait Aaron tout à l'heure, c'est difficile, mais il faudrait oser. Si on n'ose pas, alors, il faut se décider de mourir. Parce qu'au-delà du procès, il faut bien que les cœurs et les esprits, n'est-ce pas, se réconcilient, se mettent ensemble. Vous savez qu'Hissène Abré a utilisé le tissu social pour, n'est-ce pas, bien installer sa structure de torture et de dictature. Donc, le moment est venu que nous puissions tourner la page et regarder dans l'avenir.
Ah, Matt Saleh Haroun, peut-être une question formelle pour terminer. Il n'y a aucune dérive esthétisante possible, imaginable dans votre film, pas de recherche esthétique formelle particulière. Malgré tout, est-ce que, comme l'évoquait Jonathan Little dans cet entretien, vous avez aussi regardé des films équivalents est-ce que vous inscrivez aussi dans une tradition, Lanzmann, Oppenheimer, Etipan, de ces gens qui ont cherché à donner la parole à des victimes?
Non, absolument pas. J'ai vu ces films-là par ma cinéphilie, comme ça, avant, Shoah, les films de Ritipan. Mais moi, je me fais un principe. Je ne regarde, quand je commence un film, je ne regarde jamais ce qui a été fait avant. Je me refuse de trouver un baobab qui soit, en fait, trop influent à un moment et me tétanise, en fait, dans ma propre réalisation. Donc, je veux garder cette liberté-là et je ne me suis pas tapé, si je puis dire, les films sur le même sujet.
Quoi, voilà. Dire comme ça. Merci beaucoup, Mahamat Saleh Haroun. Peut-être que vous n'avez marre au bout du compte hein, d'être toujours le seul représentant de l'Afrique à Cannes. Quand c'est pas vous, c'est Abderrahmane Sissako, mais voilà, j'espère qu'il y en a d'autres qui viendront aussi, même oui. Si on aime beaucoup vos films. Hissène Abré, une tragédie tchadienne, c'est donc ce film que vous avez réalisé. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus au micro de La Grande Table. Merci Clément Abaïfouta également. La Grande Table ici à Cannes, c'est donc Raphaël Bourgois, Antoine Guillot et Malory-Laure Ciboulet à la réalisation. À Paris, Clémence Marie, Lucie Aubourg et Maïwenn Guizou. Aujourd'hui à la technique, c'était Patrice Klein.